dire la chose suivante. Le récit de la sortie de l'idolâtrie, il est extrêmement court. D'abord, il dit quelque chose de fondamental. Il dit « Mitrila ovde avodazara yu avoteinu ve'achshav kervanu amakom la avodato. » C'est-à-dire, il dit en une seule phrase ce qui est en réalité la structure du récit de la Gada. Le récit de la Gada, on l'a peut-être déjà mentionné, il doit se faire en commençant par le côté négatif et en allant vers le positif. Par exemple, la matzah du début du Seder, c'est une matzah d'esclaves, la nourriture mangée en Égypte. Et puis, on avance dans le récit et on arrive à ce que cette même matzah devienne maintenant la nourriture de la liberté. Donc, on passe du négatif au positif. Alors, en vérité, c'est articulé, c'est pour ça qu'on commence à Vadimaïn ou le Pharaon Mitzrayim, et puis finalement, on va arriver au Hallel, etc., le côté positif. Et ici, dans cette première phrase, Mitrila ovde avodazara yu avoteinu, c'est un raccourci saisissant. On parle de l'idolâtrie et on arrive à un moment où Hachem nous a pris comme étant ses serviteurs, nous a mis à son service. Donc il y a déjà un travail de, si vous voulez, comme une espèce de résumé de ce qui va se passer dans tout le récit. Dans la deuxième chose, c'est que le récit qui est fait, on parle d'Abraham, on est parti un petit peu avant Terach. On parle d'Abraham, Yitzhak, Yaakov. Et quand on est arrivé à Yaakov, on est arrivé à Yaakov parce qu'on a dit Va'eten Yitzhak et Yaakov, Va'et Esav. J'ai donné à Yitzhak, Yaakov et Esav, dit Hachem. Vous voyez que déjà dans la formulation, on a dit Yaakov d'abord et Esav après. Donc on n'a pas respecté l'ordre de naissance, en tout cas. Mais bon, peut-être c'est l'importance. Mais justement, peut-être c'est pour mettre en évidence. Finalement, après, on va expliquer d'abord Esav. À Esav, on a donné Arseir pour le désintéresser. Donc, il y a un problème d'héritage. On a donné à Esav l'héritage d'un pays. On l'a donné à l'héritage d'un lieu fixe, un endroit bien précis. Et ce qu'on donne à Yaakov ou Banav, Yardou Mitzrayim, qui descendent en Égypte. C'est-à-dire, ils vont dans un endroit qui n'est pas chez eux. Donc, d'un côté, on donne du fixe, quelque chose de définitif, un vrai pays. Et à Yaakov, son héritage, c'est de ne pas en avoir, quoi. Qu'est-ce que c'est comme héritage de descendre en Égypte? C'est pas un héritage, il n'y a pas de... On aurait pu dire qu'Hachem, que Yaakov a reçu la terre d'Israël. Non, pas du tout. Yaakov, il descend en Égypte. Alors, on voit bien que ce texte-là, il faut le mettre bout à bout avec le texte sur Avadimaïn ou le Pharaon de Mitzrayim. Parce que grâce à celui-là, à ce texte-là, on a la réponse à la question. La question, c'est de, mais qu'est-ce que ça veut dire, on était esclave en Égypte? Qu'est-ce qu'on faisait en Égypte? On est égyptien? Qu'est-ce qu'on est? Il faut expliquer pourquoi on était en Égypte. Ben, ce texte-là vient nous expliquer pourquoi on était en Égypte. Parce que de passer en Égypte, c'est l'héritage de Yaakov. Il hérite de quoi? De quoi il hérite? De Yitzhak, qui a hérité lui-même d'Abraham. L'héritage d'Abraham et Yitzhak, qui arrive chez Yaakov, c'est quoi? Tu descends en Égypte. Alors, comme héritage, c'est pas terrible, hein? Mais en fait, en quoi est-ce que c'est vraiment ça l'héritage? C'est que à Abraham, Hachem avait dit dans Brit Ben Abtarim, c'est le texte qui vient juste après, dans la Haggadah, on rappelle que à Abraham, Hachem lui avait dit, Yadoa teda, ki ger yezaracha beretz lo lahem, vavadum veinotam, arba meot shana. Vegam et agoy, asher yavodu, dan anochi, veachrechen yetsu bichush gadol. Donc, voilà le contenu de l'alliance que Hachem a passé avec Abraham Avinu. Il lui a dit, tes descendants, ta descendance, Zaracha, ils seront étrangers dans un pays qui n'est pas le leur. Et ils vont devoir travailler à Vadoum, on va les réduire en esclavage. Inu Otam, on va les faire souffrir. 400 ans. Le chiffre 4, 400 ans, c'est vraiment toujours le fameux chiffre 4 qui est le chiffre de la création, en quelque sorte. Et puis, Hachem a dit à Abraham, mais après cet esclavage, il y a un après, à ce moment-là, premièrement, les Bnei Israël vont sortir de cette situation et ils vont voir que la justice divine s'applique puisque les Égyptiens qui les ont fait souffrir vont disparaître. Ils vont être noyés. Ça, c'est un privilège parce que nous savons bien que le monde d'Hachem est un monde juste. Seulement la plupart du temps, quand on est face à une situation qui nous apparaît comme une situation d'injustice, on se dit, ok, je ne le vois pas, mais demain, éventuellement même dans l'Amaba, la justice va passer, c'est-à-dire Hachem manifestera la justice. Et ici, les Bnei Israël ont eu le privilège de voir de leurs propres yeux que la justice s'est appliquée. Ceux qui les ont fait souffrir, je les ai jugés, dit Hachem. Donc ça, c'est une première chose. Ils font une expérience dans laquelle ils ont eu le privilège de voir la justice se manifester. Et puis la deuxième chose, c'est que quand ils vont sortir de cet esclavage en Égypte, ils vont sortir Birchush Gadol. Ils vont sortir avec un grand butin. Alors, qu'est-ce que c'est que ce grand butin? D'abord, on a un peu l'impression que le butin en question, il vient un peu compenser le Vavadum Veinuotam Arba Mochana. Mais quel butin pourrait bien compenser des dizaines d'années de souffrance? Les Bnei Israël ont été 86 ans esclaves. Ils étaient 210 ans en Égypte, dont 86 en esclavage. Qu'est-ce qu'on peut bien imaginer comme butin pour compenser les souffrances pareilles? Il n'y a pas de butin possible. Il n'y a pas de compensation possible. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Après, ils vont sortir avec un grand butin, quoi. Et avec ça, et en plus, si maintenant le butin, on se demande, mais où est-ce qu'on voit un butin? Est-ce que les Bnei Israël sont sortis avec un butin? Oui, le butin, c'est quelque chose d'assez étrange. Les Bnei Israël ont emprunté des instruments, des ustensiles, des instruments, etc., d'or et d'argent aux Égyptiens, et puis ils n'ont pas rendu. Et ça, en soi, c'est déjà un énorme problème. Alors, comment imaginer que le clan d'Israël doive se construire avec quelque chose qui apparaît comme du vol. Quand on vous prête quelque chose et vous le rendez pas, c'est du vol, non? Alors c'est vrai que cette question, elle a été soulevée historiquement. Dans la Gemara, on nous dit que la question a été posée par les Égyptiens qui ont dit à Alexandre le Grand, quand il y avait quelqu'un qui était le conquérant, donc ils se sont adressés à lui, ils ont dit, nous, on réclame la terre d'Israël. Pourquoi? Parce que les Juifs nous doivent une somme faramineuse, qu'ils ont calculé ce que représentaient l'or et l'argent que les Bnei Israël leur ont donné, je sais pas, avec les intérêts cumulés, je sais pas comment. Et donc, ça veut dire que si c'était une somme tellement fabuleuse, ça veut dire que les Égyptiens pouvaient prêter, ils avaient à disposition des sommes aussi faramineuses. Tout ça, c'est assez compliqué à comprendre. Et bon, ils ont dit, voilà, les Juifs, ils nous doivent cet argent-là, ils ne l'ont pas, donc nous, on veut que pouvoir saisir avec ton accord, toi, Alexandre, saisir les biens des Juifs, c'est-à-dire la terre des Juifs. Alors, Alexandre a donné, il a appelé les Juifs, il leur a demandé, qu'est-ce que vous dites à ça? Alors, ils ont dit, donnez-nous 3 jours, ils ont réfléchi, et il y a un des jeunes Talmidei Chachamim qui a dit la chose suivante, il a dit à ceux qui étaient ses maîtres, point blanc, etc. Il leur a dit, écoutez, laissez-moi aller négocier, moi, avec les Égyptiens devant Alexandre. Si ça marche, très bien. Si ça marche pas, vous pourrez toujours dire, ah, ce petit jeune, là, il s'est autorisé de lui-même pour aller discuter, soi-disant, en notre nom, mais nous, on n'est pas d'accord, et à ce moment-là, vous pourrez dire ce que vous voulez dire. Donc, laissez-moi faire. Donc, ils l'ont laissé faire, et ça a marché. Ça a marché parce que ici on voit l'importance de la Torah chez Baalpé, parce que il a demandé aux Égyptiens sur quoi vous vous basez pour dire qu'on vous doit tout cet argent. Ils ont dit, nous on se base uniquement sur la Torah. Alors il leur a dit, si vous vous basez sur la Torah, alors moi aussi je vais me baser sur la Torah. Et il leur a dit, voilà, on était esclaves, c'est écrit dans le Passouk, là, 400 ans. Et le chiffre qui est donné, le chiffre de la population, c'est 600 000 hommes valides, etc. Et donc, on a travaillé pendant 400 ans. Et pour vous, on était 600 000, il fait une multiplication. Donc, c'est vous qui nous devez une somme faramineuse parce que vous ne nous avez jamais payé pour notre travail. Et donc, les Égyptiens se sont enfuis. Alors, comme vous voyez bien, il a utilisé la Torah dans la version, dans la lecture que peuvent faire les gens qui n'ont pas la Torah chez Baalpé. On n'a jamais été esclaves pendant 400 ans. On n'était même pas en Égypte pendant 400 ans. Et on n'a jamais été 600 000 durant les 400 ans. On était à la fin, on était 600 000. Et au début, on était une petite famille. Mais donc, puisque le texte, il a pris des versets du texte, puisque, bon, alors, d'accord, il a gagné devant Alexandre. Mais ça trompe personne. Ça trompait peut-être Alexandre et éventuellement les Égyptiens. Mais nous, on sait bien que c'était pas comme ça. Et donc, qu'est-ce qui se passe avec toute cette richesse-là? Richesse soi-disant, mais effectivement, il y a quand même eu beaucoup de choses qu'on a prises aux Égyptiens et qu'on leur a pas rendues. C'est pas extrêmement glorieux. Alors, c'est un sujet sur lequel on reviendra à un autre moment. Donc, formellement, on a résolu le problème. Mais bon, est-ce qu'on peut sincèrement imaginer que quand Hachem parle avec Avraham Avinu et qu'il parle du destin du peuple, de la descendance d'Avraham Avinu, il lui parle d'un butin et il lui parle d'or et d'argent. Ça a l'air complètement nul. Ça ne peut pas être ça, le butin. Alors, je ne vais pas le répéter parce que je l'ai déjà donné dans le Shiurim. Avec le Gaon qui dit que l'emprunt, il ne s'est pas fait auprès des Égyptiens directement, mais que Ce que Hachem voulait, c'est qu'il y ait des relations qui se fassent entre les Bnei Israël, alors qu'il n'y en avait pas parce que chacun était occupé à chercher son souffle. Alors, on a fait des embryons, on s'est habitué, c'est une regiloute, on s'est habitué à emprunter, rendre, ça fabrique des relations. Et c'est vrai que les Égyptiens ont demandé à participer aussi parce qu'ils ont vu que la société était très améliorée dès le moment où il y avait ce genre de relations. Et eux, ils ont effectivement donné, prêté, emprunté, etc. Ils ont donné des choses qui étaient plus, qui étaient or et argent, c'était ce qu'ils avaient. Je ne sais pas qui étaient ces Égyptiens qui avaient tellement d'argent et d'or pour pouvoir emprunter, prêter ça. Et je ne vois pas très bien comment ça fonctionne, mais bon, ça, je pense que ça, on est obligé de se tenir au texte d'une manière ou d'une autre. Mais bon, le retrouche, le butin, ce n'est pas ça. Le butin, c'est que les Bnei Israël sont sortis capables de devenir un peuple. C'est-à-dire qu'Hachem a sorti un embryon de peuple d'Égypte qui va devenir un peuple au pied du Sinaï et qui va ainsi être capable de recevoir la Torah. Ça, a priori, c'est le retrouche. Maintenant, il y a encore une autre explication possible qui est la suivante. C'est l'explication générale de la notion d'exil. C'est quoi l'exil? Pourquoi est-ce qu'il faut un exil? Pourquoi est-ce qu'il a fallu en passer par là? Alors, Chazal disent que Hachem n'a envoyé les Bnei Israël en exil que pour que, grâce à cet exil, il y ait des conversions. Il y a des gens qui se convertissent. Voilà. Ça, c'est c'est la raison de l'exil. Et pourquoi est-ce qu'il faut que des gens se convertissent? Parce que il s'est passé au début de la création quelque chose qu'on pourrait appeler un accident. C'est-à-dire que la lumière qu'Hachem a créée, elle a été mise dans des vases et les vases n'ont pas étaient capables de contenir cette lumière. Ils ont explosé, elle était trop puissante, et des étincelles de cette lumière se sont répandues dans le monde entier. Et ces étincelles, qui sont extrêmement précieuses, elles sont entrées dans la culture de tous les peuples, et il y en a partout, mais seulement elles sont prises dans une gangue de touma, de choses d'impureté. Et d'accord? Et donc, du coup, cette gangue-là, elle est tellement impure, si vous voulez, que les Bnei Israël ne sont pas du tout équipés pour pouvoir travailler ça, pour extraire de cette gangue les fameuses étincelles. Mais qui est-ce qui peut faire ça? L'égoïme, les autochtones, si vous voulez, ils sont capables, eux, de faire cela. Et ils le font parce qu'eux, ils sont équipés pour le faire. Et donc, certains d'entre eux vont être capables d'extraire ces étincelles et avec la conversion, les personnes vont amener à l'intérieur du clan d'Israël ces étincelles. Les Bnei Israël ont absolument besoin pour réussir, pour que l'histoire réussisse, de ramasser toutes les étincelles. L'Égypte, qui était la civilisation dominante, était un endroit où il y avait énormément d'étincelles. Et les Bnei Israël, quand ils sont sortis de Mitzrayim, ils ont sorti, c'était des Égyptiens, ils ont sorti. Ils sont tous des guérim, on s'est tous convertis avant le Sinaï. Donc, ils ont sorti ces étincelles et ils ont laissé l'image qui est donnée. On a laissé l'Égypte comme une nasse de laquelle on aurait sorti tous les poissons. Et la raison pour laquelle on ne doit pas retourner s'établir en Égypte, c'est parce qu'on n'a rien à y faire puisqu'il n'y a pas d'étincelles à chercher. Donc, on n'a pas de raison d'aller là-bas. Pour s'y établir, en tout cas, sauf que Le Rambam lui-même, il allait là-bas parce qu'il n'avait pas où aller. Donc, on n'y va pas par choix et on n'a pas le droit de choisir d'aller s'installer là-bas. Et donc, c'est l'étincelle de lumière, si vous voulez, d'énergie, de lumière, elles étaient dans les choses qui étaient importantes pour les Égyptiens. Les vases, etc., tout ce qui avait de la valeur, là-dedans, il y avait des étincelles aussi. Donc, une des raisons pour lesquelles on a eu besoin de prendre cet or et cet argent, c'est parce qu'il fallait récupérer les fameuses étincelles qui sont dans cet or et cet argent. Alors, ça ne résout pas complètement le problème, mais déjà, ça lui donne une autre dimension. Maintenant, la question que je voudrais poser, c'est quand je regarde ce texte qui parle justement de la sortie de l'idolâtrie, et que je le mets, comme on l'a dit, bout à bout avec celui qui parle de la sortie de l'esclavage. Premièrement, ce qui nous frappe, c'est que de l'esclavage, on est vraiment sorti. Mais de l'idolâtrie, on n'est pas vraiment sorti. Puisque les Bnei Israël, quand ils sont dehors, même aussi qu'ils sont au passage de la mer, ils sont dehors, ouais. Ils sont encore vus, par les anges en tout cas, comme des idolâtres. Et le problème de l'idolâtrie est un problème qui ne termine jamais, en fait. Mais la vérité, l'esclavage non plus ne termine jamais. Et une des preuves qu'on a que l'esclavage et l'idolâtrie ne terminent jamais, on la trouve dans les brachot du matin. Le matin, on fait une bracha dans laquelle on dit on demande à Hachem de nous aider à sortir de notre enfin de pardon de grandir dans notre non idolâtrie. Shelo asani goy ou nochri ou ce que vous dites vous êtes contaminé. De la même manière, shelo asani aved ou shifra. On dit pas shasani yehudi ou shasani ben chorin ou bat chorin. Pourquoi on dit les choses? Aide-nous. La bracha c'est une amplification. On demande à Hachem d'amplifier, c'est-à-dire de faire en sorte que nous soyons plus forts dans notre non-idolâtrie. C'est-à-dire qu'on n'est jamais sorti complètement d'idolâtrie. On n'est jamais non plus sorti complètement de l'esclavage. L'esclavage, comme l'idolâtrie, prennent des formes différentes dans les différentes époques du monde, dans l'histoire du monde, dans les endroits, etc. Mais il y a toujours, où qu'on soit, il y a toujours encore des traces d'idolâtrie et des traces d'esclavage, donc qui sont, on a l'impression qu'ils sont indélébiles, vraiment. Et quand on dit, on demande à Hachem d'amplifier nos efforts pour en sortir, c'est qu'on n'y arrive pas tout seul. Ça ne marche pas. Alors, on a fait beaucoup de progrès. On n'est plus formellement idolâtre, on n'est plus formellement esclave, mais on n'est pas complètement sorti de ces deux conditions-là. Alors, ce que je me demandais, c'est que si on regarde la sortie de l'idolâtrie, elle mène à l'esclavage. D'accord? La sortie, Abraham sort de l'idolâtrie, son héritage, c'est Yaakov, et qu'est-ce que ça implique pour Yaakov? Esclavage. Et je m'étais demandé, est-ce que, donc, plus avant, je m'étais demandé pourquoi est-ce que, visiblement, on ne passe pas directement de la sortie de l'idolâtrie à la liberté. Pourquoi est-ce qu'il faut l'étape intermédiaire de l'esclavage? Alors, j'ai pensé que on pourrait l'entendre de la manière suivante. Les goïms qui étaient, disons, polythéistes, idolâtres. Leurs idoles, leurs dieux, sont dans le monde des dieux. C'est un monde qui n'est pas le monde des hommes. Les dieux ne sont pas dans le monde des hommes, mais ils ont un impact sur le monde des hommes. Quand on sort de cette idolâtrie, alors qu'est-ce qui se passe? Alors, on va prendre l'exemple de l'Égypte. Beaucoup de commentateurs disent que le paro de Moshe Rabbeinu est le successeur d'Akhenaton. Akhenaton, c'était un empereur égyptien, un pharaon, qui était monothéiste, idolâtre. C'est-à-dire, il n'y avait qu'une divinité, mais qui était une idole. Son successeur, le paro là, qui est peut-être le paro de Yosef, ou la même dynastie, si vous voulez, lui, il est le maître, il est l'empereur, il est le maître des esclaves, mais il est une divinité aussi. Souvenez-vous, dans le fameux rêve que Yosef lui a interprété, son problème, c'était, est-ce que je suis une divinité supérieure à la divinité Nil, qui donne à manger à toute l'Égypte, ou est-ce que je ne suis que le gestionnaire de la divinité Nil? Est-ce que je suis en-dessus? Et l'interprétation de Yosef lui a permis de se mettre au-dessus de ses problèmes d'intendance, en disant, l'intendant, ce sera Yosef. Et du coup, lui, ça lui a permis d'être comme il le voulait, une divinité. Et donc, on a un glissement, c'est-à-dire que tout à coup, la divinité, elle est devenue homme. Donc, le roi, le pharaon, il est à la fois une divinité et à la fois un homme. Ça veut dire la divinité, l'idole, elle est entrée dans le monde des hommes. L'idole s'est faite homme. Alors, il y en a qui sont restés là, hein. Il y a beaucoup de gens qui sont restés à ce stade où la divinité s'est faite homme. Ça ne nous est pas complètement étranger. Bon, c'était ce qui s'est passé en Égypte, en fait. Alors, là, on voit que la divinité, elle devient toujours, quand elle devient homme, eh bien, elle devient le maître et les sujets deviennent les esclaves. Les adorateurs des idoles qui étaient soumis à la volonté des idoles en question, maintenant ils sont soumis à la volonté de ce dieu homme, qui est le paro. Ils sont obligés de, voilà, ils sont soumis à ce, donc ils sont ses esclaves en fait. Donc c'est vraiment bien la description d'un passage à travers l'idolâtrie, en fait, sortir de l'idolâtrie, passage par l'esclavage, et semble-t-il que c'est une constante, puisque ça a été imposé au peuple d'Israël aussi. Oui, c'est vrai qu'ils sont dans la même mouvance, ils étaient aussi idolâtres au départ. Quand tu sors de l'idolâtrie, il y a un moment où tu dois passer par l'esclavage. Alors pour nous, évidemment, ça prend toujours un autre sens, parce que pour nous, l'esclavage, il n'est pas la conséquence seulement de la sortie. L'esclavage, il est constructif, l'esclavage des Bnei Israël. Les Bnei Israël sont esclaves parce qu'il s'agit pour eux d'expérimenter la condition d'esclave. Parce qu'ils vont devenir esclaves d'Hachem. Notre relation avec Hachem, c'est que nous sommes esclaves d'Hachem. Nous sommes Avdei Hachem. Nous appartenons, il nous a libérés, il nous a rachetés à Paro, et donc nous sommes ses esclaves. C'est juste que c'est un esclavage qui libère de tout autre esclavage. L'avantage d'être esclave d'Hachem, c'est que de ce fait, on n'est plus esclave de quoi que ce soit d'autre. Ça qui est important. Bon, du coup, on n'est plus esclave de. On ne peut pas être esclave de quelqu'un d'autre. Parce que sinon, on n'est pas esclave d'Hachem. C'est bien ce qu'on dit, les Chachamim, à l'époque d'Esther, quand il a été question de dire le Hallel à Pourim, d'instaurer le Hallel à Pourim. Ils ont dit on ne peut pas instaurer le Hallel à Pourim parce que le premier mot du Hallel, c'est Allou Avdei Hachem. Louez-le, louez Hachem donc, serviteur d'Hachem. Et nous ne sommes pas serviteurs d'Hachem dans la mesure où nous sommes encore serviteurs d'Achashverosh. Et vous voyez, on n'a pas besoin d'être serviteur au sens d'esclaves qui n'ont aucun pouvoir, etc. Les Bnei Israël qui parlent à ce moment-là, c'est les Bnei Israël qui sont sujets, c'est vrai, d'Achashverosh, mais la reine, c'est Esther, et le vizir, c'est Mordechai. Donc, ils ne sont pas mal placés. Et malgré tout, avoir un maître, un empereur au-dessus de soi, ça empêche d'une certaine manière d'être vraiment esclave d'Hachem. Et le galout, c'est un problème, parce que dans le galout, on a un autre maître. Et si on a un autre maître, alors ça pose un problème par rapport à Kadosh Baruch Hu. Un esclave, il ne va pas, il n'a pas la mitzvah d'aller à la Regel. Parce que l'aller à la Regel, c'est d'aller voir et se faire voir par celui qui est appelé Adon. Et n'est astreint à la mitzvah de Ali à la Régel que celui qui n'a qu'un seul maître. Pour l'esclave qui a un autre maître, il est dispensé à ce titre-là de la mitzvah d'Ali à la Régel. Donc les Bnei Israël ont expérimenté la condition d'esclave pour savoir ce que c'est exactement que d'être esclave d'Hachem. Mais c'est un esclavage qui nous libère. Parce que les autres, quand on est esclave d'un maître, le maître, il a des désirs, il a des envies, il a des idées, etc. Et donc, il veut réaliser par le travail de ses esclaves ses fantasmes. Mais Hachem n'a besoin de rien du tout. Donc, il n'a pas besoin de nous au sens d'un vrai besoin. Parce que sinon, par conséquent, tout ce qu'il va nous demander de faire, soi-disant le présentant comme le faire pour lui, c'est en réalité pour nous. Ce qui n'est pas le cas en général quand on a un maître qui est un homme. Lui, il veut les choses pour lui. On les fait pour lui et c'est vraiment pour lui. C'est pas une façon de les faire pour nous ou pour les sujets. Donc maintenant, on sait un peu ce qu'il en est du passage, semble-t-il, de l'idolâtrie à travers l'esclavage et à la liberté. Alors justement, pour parler de cette liberté, la vraie liberté, c'est celle dont on parle quand on parle de la Kabbalat HaTorah. Vous savez bien que c'est construit sur le fait que quand Kadosh Baruch Hu a écrit sur les luchot, sur les tables de la loi, les aseret à dibrot, il les a pas écrit avec à l'encre de Chine ou au stylo bille, etc. Il les a gravés. Et il les a gravés de part en part. Il les a gravés de telle sorte qu'il n'y avait pas un support et une écriture dessus. L'écriture était de part en part, avec les problèmes que pose le sammaire ou le même final, etc. On ne sait pas très bien comment ils tiennent, puisque c'est de part en part. Et alors, la gravure dans la chaîne de la Torah, ça se dit « charut »,« chet, reish, vav, tav ». Et « charut »,« chet, reish, vav, tav », ça se lit aussi bien « cherut ». Et « cherut », ça veut dire « liberté ». Et on dit, il n'y a de personne libre que celui qui est mekabel la Torah. C'est-à-dire celui qui est imbibé, en fait, La Torah s'est gravée en lui, en fait. C'est ça la vraie liberté. Et cette liberté-là, donc, les Bnei Israël n'y ont accédé que quand ils sont arrivés au Sinaï. Mais pourtant, ils étaient déjà libres quand ils sont sortis d'Égypte. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des degrés de liberté. Le degré de liberté des Bnei Israël qui sont sortis d'Égypte, ce n'est pas le même degré de liberté que celui de ceux qui ont entendu la Torah, qui ont été mekabel la Torah, reçu la Torah au Sinaï. Maintenant, il y a dans le texte de la Haggadah, on dit que Chayav Adam irot et atzmo keilu yatsa mimitzrayim. L'homme doit se considérer comme s'il était sorti d'Égypte. Et il y a plus fort, d'une certaine manière. C'est la version du Rambam, c'est de dire, c'est pas l'irot et atzmo, mais le harot et atzmo. Et plus, il ajoute, le Rambam dit comme ça. Chayav Adam, le harot et atzmo, keilu, comme si, lui vraiment, lui, il était sorti maintenant d'Égypte. C'est ça qu'on est censé faire le soir du Seder. On doit se considérer comme si on était sorti. Alors, dans la version du Rambam, qui est la version de Haggadot Sfarat, le Harot, c'est le manifester. Donc, il y a beaucoup de familles qui ont l'habitude de faire une espèce de théâtre le soir du Seder, où on met en scène celui qui sort d'Égypte, qui rencontre quelqu'un, qui lui demande d'où tu viens, où tu vas, ça, je ne connais pas exactement le Noussar, mais c'est magnifique, c'est une vraie scène de rencontre où on vit la sortie d'Égypte. Bon, mais même si on ne la vit pas de cette manière-là, et on ne la manifeste pas de cette manière-là, la question qu'on peut se poser, c'est du coup, qu'est-ce que ça veut dire sortir, se considérer comme sorti d'Égypte. Je sais que certains disent que, en fait, ça veut dire sortir de son Égypte personnelle. Mais a priori, c'est pas ça c'est pas la leçon. C'est pas faux non plus, mais c'est pas ça qui est marqué. Et donc, la question que je voulais vous poser là, c'est: à votre avis, qu'est-ce que ça veut dire se considérer comme sorti d'Égypte? Qu'est-ce que ça veut dire? Puisqu'on est censé se considérer, il faudrait quand même qu'on sache ce qu'il en est. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, vous avez quelques secondes pour y réfléchir.
Je peux prendre la parole?
Pardon?
Est-ce que je peux prendre la parole?
Bien sûr, vous pouvez parler. C'est ça.
Peut-être que est-ce que ça veut dire se sortir d'Égypte par rapport à ce qu'on a dit? C'est peut-être sentir à quel point on est déjà esclave pour pouvoir faire l'expérience justement de la liberté. Donc, c'est déjà se saisir.
Mais qu'est-ce que c'était? C'est quoi se sentir? Alors, vous avez raison qu'on est encore esclave. C'est ce que je disais avant, c'est qu'on n'est jamais complètement sorti de l'esclavage. Il reste toujours des traces d'esclaves. C'est pour ça, à cause de la bracha, c'est pour ça qu'il y a la bracha le matin, là-dessus, où on demande à Hachem de nous aider à en sortir, effectivement. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que j'étais? Qu'est-ce que je ne suis pas? Hier, j'étais esclave. Et voilà, maintenant, on a passé de l'autre côté, je suis libre. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a vraiment changé pour que je puisse me considérer comme, voilà, je le vis, là. Je suis sorti, comme dit Rambam, je viens de sortir maintenant, là.
Eh bien, je suis esclave avec ma propre volonté, avec ma propre décision. Je décide d'être esclave, donc je choisis mon maître.
D'abord, ce n'est pas tout à fait vrai, puisqu'on n'a pas choisi vraiment. Enfin, oui, on peut dire on choisit ceux qui ont accepté de sortir.
Oui.
Il y a 4/5 qui n'ont pas voulu sortir. Mais bon, je pense que ce n'est pas ça la liberté. Bon, dire que la liberté, c'est la possibilité d'aliéner sa liberté, c'est vrai. C'est vrai qu'on est vraiment. Il faut être vraiment libre pour pouvoir aliéner sa liberté.
Ou alors redéfinir sa liberté, parce que c'est ce qu'on fait, parce qu'on redéfinit notre liberté.
Oui, mais vous n'avez pas redéfini votre liberté en choisissant un maître.
Si.
Je ne pense pas que ça c'est pas. Vous avez décidé d'aliéner votre liberté. Mais c'est pas définir la liberté.
C'est une prise de conscience de ma position par rapport à ce qui m'entoure.
Non, je crois que c'est pas ça. Ça, c'est pas le passage de « j'étais esclave hier et maintenant je ne le suis plus ».
Rav, bon, il y a déjà une première notion que j'ai du mal à comprendre, c'est que d'un côté, on dit que pour être esclave d'Hachem, on ne peut pas être esclave de quelqu'un d'autre. Et en même temps, on fait une bracha pour demander à Hachem d'être moins esclave. Donc alors, esclave de quoi, puisqu'on devrait être que uniquement esclave d'Hachem. Pour pouvoir être avec Hachem, il faut que ça soit exclusif vers Hachem. Donc, j'arrive pas à comprendre qu'on puisse demander quelque chose d'autre alors qu'on ne devrait pas avoir autre chose comme esclavage.
On ne demande pas autre chose. On demande à Hachem de nous aider à ne plus être esclave, qui en fait est la condition sine qua non pour véritablement être esclave d'Hachem. Mais on ne le dit pas de façon positive, aide-nous à être esclave d'Hachem, parce qu'on oublierait que ça commence par s'arracher à toute trace d'esclavage.
Et l'arrachement à toute trace d'esclavage, donc ça, c'est cette liberté qu'on acquiert, donc ça se passe par le récit et par le bombardement.
Oui, de toute manière, ça nous a été donné par Hachem, on n'a rien fait en vérité.
Mais il n'y a pas de transformation. De la même manière qu'on a dit qu'on transformait notre regard vis-à-vis de la matzah. Donc, quand il y a cette transformation-là, ça ne nous amène pas à un autre état?
Oui, mais je voulais savoir quel est l'autre état. Je voudrais mettre des mots sur l'état ancien et l'état nouveau. D'autres termes, quand vous allez lire le soir du Seder, Hayav Adam, Lirot et Asmo, Keilou Yassam Mitzrayim, à quoi est-ce que vous allez penser?
Peut-être que je comprends, que je goûte à une liberté dans le sens que je dirige ma vie vers un objectif que je ne soupçonnais pas avant, qu'il y avait un Dieu, qu'il est près de moi, qu'il m'aide et qu'il s'occupe de moi. Et c'est cette liberté de penser, c'est cette liberté d'être, cette liberté de pouvoir réaliser enfin quelque chose qui me rapproche de mon intériorité, qui fait que je me sens libre de pouvoir vivre et être.
Je pense que c'est pas faux, mais si vous voulez, il y a quelque chose de plus élémentaire qui se passe à ce moment-là.
Vous nous avez dit que quand nous étions...
Vous parlez de grandes choses. Ils sont sortis d'Égypte concrètement. Qu'est-ce qui se passe tout à coup, là, maintenant?
C'est une prise de conscience de ce qui n'était pas imaginable. Soudain, prend un sens et passe par des mots.
Non, ils ont changé de lieu.
Ils ont changé de lieu, oui. C'est vrai, ils ne sont pas très loin. Hein. Ils ont changé de lieu... Pas très, très loin.
Mais avant, ça n'existait pas. Vous nous avez dit qu'ils n'imaginaient pas, ils ne pouvaient pas, ils ne savaient pas de quoi on parle. La liberté, ils ne savaient pas de quoi on parlait. Ils n'avaient jamais pu philosopher, eux. Ils ne savaient pas.
C'est juste. Mais maintenant, c'est maintenant moi qui dois m'imaginer que je suis en tort. Moi, je sors d'Égypte. Qu'est-ce que j'expérimente qu'est-ce qui change maintenant, concrètement?
Moi, je pensais que c'était justement cette ouverture
d'un... Non, il faut. D'accord. Non. Ok. Vous pensez comme ça, c'est.
Grave. On peut penser qu'on devient maître de son temps.
Oui, on devient maître de son temps, c'est juste, c'est la condition. Mais je pense que c'est quelque chose de plus, peut-être de plus élémentaire. Maître de son temps, c'est déjà très élaboré, maître de son temps.
Est-ce que c'est pas
fondamental le qui se passe à ce moment-là?
Est-ce que c'est pas que, enfin, quand j'arrive moins à me projeter dans le moment où on sort d'Égypte, mais au moment où je dis au Seder, j'étais esclave et je n'étais suis plus, j'ai une certitude que je ne peux plus être esclave ni de Paro, ni d'aucun Paro, ni d'aucun, enfin, d'aucun autre maître. C'est-à-dire que la différence, c'est qu'on peut cesser d'être esclave de Paro, mais ils auraient pu, s'il y avait Paro était mort et qu'il y avait eu un autre général d'Égypte, ils auraient pu devenir son esclave. Et j'ai l'impression que ce qui se passe au moment où on dit désormais on devient esclave d'Hachem, c'est que on comprend que quelles que soient les circonstances, on peut, même si un autre général nous rattrape à la sortie, on va pas être son esclave. Et c'est ça. Est-ce que c'est pas ça?
La question n'est pas. La question c'est pas que je suis esclave d'Hachem. Je suis sorti d'Égypte. C'est tout. Pour l'instant, on n'est pas encore entré dans le terme d'esclavage d'Hachem, etc. Ça viendra plus tard. Ça va prendre beaucoup de temps, etc. Et c'est très sophistiqué déjà. Moi, je parle de choses très élémentaires.
J'ai un futur. Avant, je pensais pas qu'il pouvait y avoir autre chose que d'être esclave. J'ai une autre possibilité de penser, une autre possibilité de diriger ma vie.
C'est vrai. C'est pas assez. Ça aussi, c'est déjà très sophistiqué, quoi, j'ai l'impression. Penser, diriger sa vie autrement.
Peut-être que le plus simple, c'est apprendre à vivre avec les autres. Hein. On avait vu tout le long, dans les derniers shiurim, on a vu que la difficulté des esclaves, c'est que chacun est pour soi. Comme dans les camps, les gens essayent à survivre. Hein. Non, c'est pas survivre, mais c'est vivre. Hein. Ah, okay, c'est une organisation sociale, une organisation.
Et c'est ça, presque c'est ça.
Les esclaves ne connaissent pas.
C'est un peu ça. Bon, je veux dire, il me semble que la grande différence, c'est que on est devenu responsable. Un esclave, c'est quelqu'un qui est totalement irresponsable. Il n'a aucune responsabilité. Il ne fait si son maître lui dit de faire quelque chose, il fait. Et si le maître ne dit rien, ben, faire n'importe quoi. Il n'a pas de responsabilité. Il n'a pas de responsabilité familiale. Il n'a pas de responsabilité d'enseignement. Il n'a pas de rien du tout. Regardez l'exemple de celui qui est Eved d'Ivry. Eved d'Ivry qui devient donc esclave, qui s'est vendu parce qu'il a peur de la vie, quoi. Il s'est vendu comme esclave. Il avait une femme, des enfants. Il s'est vendu comme esclave. Il a trouvé quelqu'un qui voulait bien devenir son maître. C'est pas tellement évident parce que toute la famille est à la charge du maître, mais la famille ne travaille pas pour le maître. Il n'y a que lui qui travaille. Et donc, il faut trouver quelqu'un de bonne volonté pour prendre une famille en charge. Et vous savez bien qu'on envisage que le bonhomme, au bout de la sixième année, normalement, il devrait sortir à la septième. Il dit non, mais finalement, j'aime bien mon maître, j'aime bien ma femme, j'aime bien mes enfants, je veux repiquer, je veux rester esclave. Bon, alors, on essaie de le dissuader, bon, il reste. OK. Le problème, c'est qu'il faut écouter ce qu'il a dit. Il a dit j'aime ma femme, j'aime mes enfants. Bon, il avait une femme, quand il est arrivé, il avait des enfants. S'il part, ben sa femme, elle part avec lui, ses enfants partent avec lui. Partent avec lui, de qui il parle exactement? Alors, vous savez, il y a c'est ça le grand problème, c'est que quand il est esclave, son maître, si le maître a une esclave cananéenne, c'est-à-dire une esclave non juive, il peut la lui donner pour qu'ensemble ils produisent des petits esclaves. C'est-à-dire, il va avoir des rapports avec cette femme. Et s'ils ont des enfants, les enfants sont des petits esclaves qui appartiennent à leur maître, bien sûr. Donc, ce bonhomme-là, il est capable de dire qu'il veut rester. Pourquoi ? À cause de cette femme-là qu'il appelle maintenant ma femme. À cause de ses enfants qu'il appelle mes enfants. Alors qu'elle n'est pas sa femme et ils ne sont pas ses enfants. Et pourquoi il veut rester ? Parce que cette femme-là, il peut faire ce qu'il veut avec elle, il n'y a aucune responsabilité. Elle est une esclave, elle doit faire ce que le maître a dit de faire. Donc il peut la violer, il peut faire tout ce qu'il veut. Il n'y a pas de limite, sauf que les limites que le maître va lui mettre. Et les enfants, il n'a pas d'obligation de les éduquer n'importe quoi. Il va, si ça l'amuse de jouer avec eux, ben il jouera avec eux, c'est bien, sans aucune responsabilité. Il n'a absolument aucune responsabilité. Et c'est, semble-t-il, ça qu'il aime. Et on dit qu'un évêque, un esclave, ce qu'il aime, c'est le côté efker. C'est-à-dire, tout est perdu. Il n'y a pas de loi. La loi, c'est la loi du maître, mais là où le maître ne dit rien, je peux faire ce que je veux. Et donc, il n'a aucune responsabilité. Et tout à coup, quand il sort, maintenant, il a une responsabilité. Il a sa femme, il a ses véritables enfants. Il va falloir qu'il aille travailler, qu'il va gagner sa vie. Enfin, devoir éduquer les enfants, il devait avoir des relations particulières avec son épouse et tout. C'est ça qui a changé. Et c'est ça que je dois considérer, que le premier degré de liberté, si on peut parler comme ça, la liberté dans la version juste au moment où on est sorti d'Égypte, c'est « je suis responsable ». C'est-à-dire, je réponds de certaines choses. J'ai des comptes à rendre. Ça, il n'en avait pas d'autre que devant son maître. Ce n'était pas vraiment des comptes parce qu'il n'avait pas le choix. Ici, j'ai des choix et j'ai des comptes à rendre. Et c'est ça, me semble-t-il, la grande nouveauté de la sortie d'Égypte elle-même, avant d'accéder à la liberté dans la version de la Torah. Mais la première chose, c'est « tu es responsable ». Alors, vous avez, dans ce que vous avez dit, il y a des éléments qui se retrouvent dans cette idée de responsabilité. Responsabilité, ça veut dire aussi, je dois aussi regarder à gauche, regarder à droite, etc. Je suis responsable, responsable à l'intérieur du groupe humain auquel j'appartiens, qui, on ne peut pas encore l'appeler un vrai peuple, mais enfin, j'ai des obligations à l'égard des autres. Il faut que je regarde si l'autre a besoin de quelque chose, il faut que je l'aide, etc. Et donc ça, c'est le degré numéro, enfin, degré zéro, peut-être on pourrait dire, de la liberté, c'est la responsabilité. La première chose, c'est qu'on est d'abord responsable. Et on est responsable de toutes sortes de choses. Et à ce moment-là, on va, voilà, de responsable, il faut répondre. Et la question, on a toujours, savoir devant qui est-ce que je réponds. Bon, quand on dit qu'on est responsable, et responsable devant qui ? Ben, je suis responsable devant Hachem, c'est ce que vous avez dit. Non, depuis désormais, je suis responsable devant Hachem.
Et responsable devant Hachem inclut Avdei Hachem. Avdei Hachem, c'est responsable. C'est la traduction de responsable devant Hachem. J'ai dit Avdei Hachem, Ken.
Ken.
C'est responsable devant Dieu.
Oui. On est responsable. On sert Hachem et on est responsable de toutes sortes de choses, et la responsabilité par rapport à mes enfants, par rapport à ma famille, par rapport à mon voisin, etc. Cette responsabilité, je vais devoir l'assumer devant qui ? Devant mon Créateur. Je ne suis pas responsable devant le bureau des finances ou le flic local, etc. Je suis responsable devant Hachem. C'est une responsabilité absolue. On peut pas, il n'y a pas d'embrouille là. On pourra pas, il y aura pas de passe droit et des trucs comme ça. Je suis vraiment totalement responsable.
Raph, est-ce que le premier acte de responsabilité dans ce cas-là, c'était pas de dire oui, je sors, puisque tous ne l'ont pas assumé ce oui.
Oui, bien sûr. C'était pas encore un acte de responsabilité vraiment, mais c'est l'embryon de cette responsabilité effectivement. De dire je sors, oui, on est d'accord de sortir, alors qu'ils ne savent pas où ils vont. Ça ne veut rien dire de sortir, mais bon, je sors. On suit Hachem, tel que Moshe nous l'a dit. Ça, c'est le, si vous voulez, c'est cette situation extraordinaire. Et les Bnei Israël se trouve et où il faut. Il faut s'assumer. Alors bon, ils sont complètement pris en charge. Mais nous, maintenant, si moi, je s'imagine que moi, je sors maintenant, ce qui me tombe dessus, c'est la responsabilité.
Par rapport à la... On dit comment est-ce qu'on se sent libre? Comment on sent cette liberté par rapport au récit? Je veux dire, quand on parlait du récit, on parlait de la matza qui se transforme. Et ça, cette responsabilité, je vois pas à quel moment se fait la transition.
Mais c'est ça que c'est moi qui dois la faire. Chayav Adam Lirot et Tatsmo, c'est une obligation que j'ai. Ça fait partie des obligations, de même que j'ai l'obligation de voir différemment la matza, comme on l'a expliqué. Maintenant, je dois prendre conscience que désormais je suis responsable. Voilà, je viens de sortir, donc j'ai une nouvelle. Si je considère que je suis sorti de l'esclavage, bon, c'est une nouvelle sorte de responsabilité. Je suis plus responsable que je ne l'étais jusqu'alors.
Mais jusque-là, Rav, il n'était responsable de rien puisqu'il n'avait aucune liberté.
Oui, on est en Égypte, il n'était responsable de rien. Et moi, maintenant, quand je dois faire l'expérience de la sortie d'Égypte, je dois comprendre que ce qui s'est passé, c'est un changement de responsabilité. Si je le traduis maintenant dans ma condition personnelle, je suis Joshua Grandstein, je suis en 5702, donc bon, ben voilà, j'ai plus de responsabilité.
Et c'est ça, à ça qu'on doit penser
C'est ça qu'il faut penser à ce moment-là, quand on dit Chayav Adam Lirot Tatsmo, c'est cette responsabilité qu'on a, c'est ça, me semble-t-il. C'est pas que j'ai d'accord avec moi, mais c'est ce que je comprends dans le Chayav Adam Lirot Tatsmo. Je vois pas très bien. Bon, c'est très riche en vérité, une responsabilité, mais. Je pense que c'est comme ça.
Mais Rav, toutes les mitzvot qu'on a, c'est déjà une responsabilité énorme. Enfin, entre guillemets, oui, non?
Oui, mais nous, le soir du Seder, on s'imagine qu'on sort d'Égypte. On n'a pas encore reçu les mitzvot.
D'accord. Mais pourtant, c'est déjà une mitzvah de la Torah de faire le récit.
Oui, bien sûr, on est dans le récit. Il y a un moment où on te dit, imagine-toi que tu sors d'Égypte.
D'accord. Merci.
Voilà. Je vous souhaite Pessah Kasher Samer. Je ne sais pas, il est peut-être encore court.